Le journal politique de Radio JM.
Audrey Garineau, bonjour.
Bonjour Elsa Charvit.
Je suis ravie de vous accueillir. On se croise souvent, mais c'est vrai que chaque année, à la période du lancement de la campagne de la Tzedaka, qui est la campagne de solidarité du Fonds social juif unifié, vous me faites le plaisir d'être à mon micro, puisque, rappelons-le, vous êtes adjointe au maire de Marseille, en charge des affaires sociales, de la solidarité, on pourrait presque même de la Tzedaka, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits. Alors, on va parler bien sûr de tout ça, parce que malheureusement, avec l'inflation, cette pauvreté grandissante, déjà que notre territoire n'était pas le mieux loti. Mais avant cela, elle est un peu d'actualité puisque s'ouvre aujourd'hui le 100e congrès ou 105e congrès des maires de France, dont un des sujets qui va être abordé est la violence, puisqu'on sait que plus de 400 maires démissionnent chaque année. Bon, c'est souvent dans des petites villes où ce n'est pas facile. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Je voulais d'abord vous faire réagir sur l'importance du maire, puisque ces congrès sont extrêmement importants et très attendus.
Effectivement, les maires ont un rôle très particulier dans notre système institutionnel et dans la République. Vous savez, quand on fait des enquêtes d'opinion, en règle générale, les gens, les électeurs, reconnaissent le président, reconnaissent le maire, et puis au-delà...
Après, ça s'arrête là,
très
oui.
Limité. Et pour autant, ce sont des fonctions très difficiles. La fonction de maire, que ce soit maire d'un tout petit village où on est quasi bénévole et à temps plein, jusqu'à maire d'une très grande ville avec la masse des problèmes qu'il y a à gérer, ce sont des postes difficiles, très exposés, et qui effectivement, ces dernières années, parce que la société est comme cela, parce que la politique a déçu et donc a créé beaucoup de défiance, sont victimes parfois d'agressions, et donc c'est un enjeu de société. Il faut que les gens puissent s'engager, il faut que tout à chacun puisse accéder à une fonction élective, si on veut que nos démocraties soient vivantes et utiles, et donc il y a lieu évidemment de protéger les élus, notamment les élus locaux qui sont en première ligne.
Mais n'avez-vous pas aussi l'impression qu'il faudrait éduquer les citoyens et leur rappeler quel est le rôle du maire et que le politique accompagne, donne une directive, mais il ne peut pas tout faire. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander à un maire. On le voit surtout dans les petites villes, évidemment, mais même les gens confondent les prérogatives, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin, avant tout cela, de faire une éducation citoyenne?
Alors, une éducation citoyenne, certainement. Mais
en partant,
aussi,
bien sûr, des fonctions du politique et du maire, plus précisément.
Évidemment, mais vous avez raison de dire que les élus ne peuvent pas tout et que notre système est ainsi fait que selon les collectivités ou selon l'institution que tu diriges, il y a un certain nombre de compétences qui te sont dévolues. Aujourd'hui, on est dans un système qui est éminemment complexe. Alors, est-ce qu'on transmet mieux l'information ou est-ce qu'on simplifie un petit peu ce contexte institutionnel? Je pense que la réponse se trouve entre
toute la difficulté est bien là, justement. En tout cas, on sera attentif à ce qui sera dit. Puis je crois qu'a eu lieu récemment ici à Marseille, sous l'égide de la région, une réunion des maires qui sont toutes dans cette région, et je pense que d'échanger aussi entre eux, ça apporte quelque chose. Alors vous êtes adjointe au maire, mais d'une très grande ville, donc les fonctions et les charges sont extrêmement importantes. On pourrait peut-être commencer, Audrey, si vous êtes d'accord, par faire un bilan de la pauvreté. C'est vrai que ici à Marseille, malheureusement, on a une pauvreté plus élevée que sur le reste de la France. Je crois que jusqu'à maintenant, on était à 26%, donc ça a encore augmenté. Et là, on se trouve avec une inflation, une augmentation des produits de base, dont je pense bien sûr à l'électricité et au gaz. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on peut dresser un bilan, André Garineau?
Alors, un bilan, c'est complexe. Ce qu'on sait, effectivement, c'est que Marseille souffre plus que d'autres grandes villes de France, et majoritairement même d'ailleurs, d'une très grande pauvreté et de grandes inégalités. 26% de sa population vit sous le seuil de pauvreté, vous l'avez dit. 25% est près de la rejoindre. Donc on a à peu près la moitié de notre population qui vit dans une grande tension économique et sociale. On se le disait, je l'ai déjà dit à votre micro il y a quelques mois, la crise sanitaire, une fois qu'elle sera terminée, elle va laisser des conséquences sociales extrêmement violentes sur nos territoires, a fortiori dans des territoires déjà fragiles.
La crise
du Covid.
D'accord, elle a laissé,
c'était évident.
Bien sûr.
Des milliers de familles ont été déstabilisées, ont perdu leurs revenus, ont perdu leurs ressources.
Quand même, il y a une aide de l'État qui a été conséquente, mais qu'il faut aussi rembourser, ça complique les choses à date.
Voilà, ça complique les choses, évidemment, et donc on savait qu'il y aurait des conséquences, et les conséquences, elles sont là aujourd'hui. On est effectivement dans une crise qui est très violente, qui s'enracine dans nos territoires, qui a fait basculer des publics qui ne sont pas forcément les premiers publics auxquels on pense quand on pense...
Non, qui sont souvent des gens qui travaillent, des gens qui ont des revenus.
Des travailleurs pauvres, exactement, ouais. Des personnes âgées avec des toutes petites pensions de retraite, des jeunes étudiants, voilà, toutes ces publics-là,
Femmes monoparentales, et les femmes sont extrêmement touchées.
Le Secours catholique vient de sortir un rapport là cette semaine, justement sur les conséquences de l'augmentation de la pauvreté, et avec des conséquences extrêmement dures sur les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont moins bien payées. parce que les femmes sont très souvent chefs de famille à plus de 90% dans les familles monoparentales.
Mmh. Donc on double charge mentale.
Parce que les femmes ont travail précaire ou temps partiel imposé, n'ont pas de solution de garde pour leurs enfants. Bref, c'est un cumul de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, c'est la population qui est le plus impactée par la crise sociale que nous vivons, et notamment par l'inflation sur les produits de première nécessité. Vous l'avez évoqué, énergie, produits alimentaires, produits de soins, d'hygiène. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante et face à laquelle, vous parliez de compétences tout à l'heure, une ville n'a que très peu de compétences. Pour autant, elle a sa volonté et la clause de compétences générale qui nous permet d'agir sur différents sujets. Mais notre volonté est vraiment d'agir aux côtés des plus vulnérables et notamment des femmes pour lesquelles nous avons un plan d'action spécifique.
Et le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est fixé aussi un devoir, j'allais dire, c'est de répondre au droit au logement, au logement digne, au logement pour tous et toutes, de lutter contre les marchands de sommeil. Il l'a rappelé encore récemment, ils disent toujours que c'est une urgence. Là, il y a une volonté très forte parce que ce droit au logement, bien sûr, est fortement lié à la pauvreté de ce territoire.
Ah, le logement est un des principaux facteurs de la pauvreté. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans certains ménages, plus de 50% du budget est consacré au logement, on voit bien la problématique immédiatement. Et je vous parle des ménages qui sont en capacité d'y accéder. Imaginez toutes celles et ceux qui n'en sont pas capables. Donc effectivement, c'est un axe prioritaire de notre politique municipale parce que c'est un besoin fondamental pour les gens. On parle de droit au logement. Mais il n'y a pas de droit au logement, Elsa Charmit. Il faudrait qu'il y ait un droit au logement qui soit effectif.
Il existe un droit à la dignité.
Voilà, avec un logement digne, accessible à toutes et tous. Et c'est pour ça que nous avons organisé il y a un an les états généraux du logement, que nous sortons cette année du rendez-vous annuel que nous avions pris, nous avions pris l'engagement de continuer nos travaux, et nous avons pris une exception excessivement large de la rue, c'est la partie qui me concerne plus directement, bidonville, squat et compagnie, jusqu'au logement de droit privé. Pour que précisément, notre entrée, c'est de créer un parcours dans le logement qui permette à chacun de s'insérer.
C'est les étapes d'arriver.
Il n'y a pas de fatalité à rester dans un bidonville, il n'y a pas de fatalité à vivre dans un logement.
Vous nous parlez justement de squat et de bidonville, est-ce qu'on a des chiffres sur la ville de Marseille?
Alors, on a des chiffres qui valent ce qu'ils valent, je vais le dire comme ça, parce qu'on manque cruellement de données consolidées, ça fait partie des éléments que nous travaillons. Aujourd'hui, ce qu'on sait à peu près...
Enfin, vous savez quand même où sont les bidonvilles.
Oui, ça,
voilà, on
le
sait
bien.
On va commencer par ça.
Ça, on le sait bien. Il y a à peu près dans notre ville, peu ou prou, 14 000 personnes en situation de sans-abrisme, 1000 personnes vivant dans des campements ou dans des bidonvilles, et à peu près 5000 vivant dans des squats. Ça vous donne...
Et dans cette population, on a une population de migrants, on a une population... Est-ce qu'on sait quelle est la part? Parce que normalement, avec la nationalité française, on a le droit, on a des droits. Et ces droits-là, normalement, sont défendus. Et est-ce que les gens connaissent leurs droits? Est-ce qu'on sait le pourcentage de population française et de personnes en état, qui ont un droit d'asile, etc. Est-ce qu'on a un peu de
chiffres? Alors ça, c'est difficile à obtenir. Très honnêtement, c'est très difficile à obtenir. Après, vous avez raison de parler de droits. Puisque c'est l'axe prioritaire de notre politique, la question de l'accès aux droits, en tout cas de la politique que je mène au titre des affaires sociales. Parce que tous les publics ont des droits, même les publics migrants.
Bien sûr,
même
mais les ce sont papier, des droits différents.
Notamment la question de l'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence, dans notre pays, il est inconditionnel.
Oui.
Tout à chacun
a le droit. Même si c'est bien difficile aujourd'hui d'y faire face.
C'est très difficile de répondre aux demandes, mais la loi est très claire.
Bien
la loi
sûr.
Stipule que tout à chacun a le droit d'avoir un toit sur la tête et un lit où dormir. Et donc, on doit l'accueillir, quel que soit son statut sur notre territoire. Alors après, la question, effectivement, des statuts des personnes, non, ça c'est effectivement très complexe,
compliqué.
On a des chiffres trop parcellaires pour en tirer des vraies...
Combien de demandes vous avez? Parce que c'est à vous à faire face.
Des demandes de logements sociaux?
Le logement social, c'est une chose, mais surtout d'asile, les gens qui n'ont pas nos droits d'endroit où aller ou dormir pour ne pas dormir dans la rue.
Ce qu'on sait à Marseille, par exemple, c'est qu'un demandeur d'asile sur deux n'atteint pas ses droits. C'est-à-dire que quand on est demandeur d'asile dans notre pays, il y a des droits qui se mettent en place, et notamment une allocation et... un hébergement dans un CADA ou dans un UDA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Mais on dit qu'ils sont surchargés.
On sait que dans notre ville, je ne tirerai pas de généralité plus largement, en tout cas, on sait que dans notre ville, un demandeur d'asile sur deux ne peut pas accéder à un CADA ou à un UDA.
Faute de place.
Donc ça nourrit évidemment les squats, ça nourrit le sans-abrisme et ça sature les hébergements d'urgence à vocation inconditionnelle, puisqu'évidemment, il faut trouver des solutions, donc il faut mettre à l'abri les personnes, sauf que les centres d'hébergement d'urgence, les CHU ou les CHRS, il faut aussi se dire qu'un lieu comme ça, ce n'est pas simplement un lieu de mise à l'abri.
C'est
aussi un lieu qui permet d'avoir un lieu de répit pour la personne et de lui permettre de repartir.
Combien on a de places d'hébergement d'urgence à Marseille?
Alors, généraliste, oui. Inconditionnel, on est à entre 8 et 9 000.
D'accord.
Ce qui est énorme, mais ce qui n'est pas suffisant.
C'est tout le temps plein.
Non, c'est tout le temps plein. C'est pour ça que la ville a engagé un plan de création de 2 000 places. On en a déjà créé 300. Encore une fois, un plan volontariste, hein, Elsa Charbitte. On n'a pas de compétences. Hein, si on
non, je sais.
Rien.
Je sais très bien.
C'est vraiment pas notre choix, vous l'avez compris.
Mais c'est bien de pouvoir dresser pour nos auditeurs un bilan.
Nous, on s'est engagé à créer 1 000 places, notamment en mettant à disposition notre patrimoine municipal et en luttant contre la vacance du patrimoine municipal qui a aussi prospéré pendant de trop nombreuses années et qui a conduit soit à la dégradation du bâti, soit à des squats. Et donc notre enjeu et le mien...
Le mieux est d'utiliser ces lieux qui
c'est
sont...
de recenser les lieux municipaux.
Donnez-nous un exemple de lieu, par exemple.
Ben, par exemple, on a utilisé... l'auberge marseillaise, par exemple, qui est un très joli exemple, était une auberge de jeunesse municipale, fermée pour cause de Covid, pour le coup, et que nous avons souhaité mettre à disposition d'un consortium associatif pour accueillir des femmes ou seules ou des femmes avec enfants en situation de rue.
Et il y a beaucoup de femmes.
Et c'est ce lieu, on l'a ouvert depuis 3 ans, il accueille 80 personnes au quotidien, il est à Bonneveine, c'est un lieu qui s'est intégré dans son environnement et qui marche bien, mais il y en a d'autres comme ça, je pourrais le décliner à l'envie, en tout cas c'est la façon dont on travaille.
Cette précarité de logement s'accompagne aussi d'une précarité alimentaire, on dit qu'elle frappe 35% des habitants, ici, comme partout en France d'ailleurs. Hein. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas assurer 3 repas par jour. Nous, Fonds Social Juif Unifié, c'est le constat que nous faisons aussi. C'est pour ça que nous accompagnons les enfants dans les écoles pour être sûr qu'ils aient 1 repas par jour, donc avec les bourses cantines que nous distribuons. 35%, c'est énorme.
Non, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 1 personne sur 3.
La même chose, ça s'est enflammé après le Covid.
Ça s'est enflammé parce que les prix ont explosé et parce qu'à un moment, vous savez, quand on n'a pas grand-chose, on fait des économies sur ce qu'on peut. Et très souvent, l'alimentaire et le chauffage sont les rares postes
sur lesquels on a une petite marge. Voilà.
Exactement. Oui. Et vous savez comme moi que les parents préfèrent se priver que devoir laisser leurs enfants sans avoir un repas chaud. Donc la ville, évidemment, s'est saisie de cette problématique. Dans le plan de pauvreté que nous gérons, je rappelle qu'on est la seule ville en France à avoir un plan de pauvreté. Il y a une fiche
spécifique. On a une
ville
spécifique. Très pauvre aussi.
Effectivement. Il y a une ville spécifique, il y a une fiche spécifique, excusez-moi, sur la question de la précarité alimentaire. L'objectif étant d'essayer de diversifier les modes d'accès à l'alimentation, de la distribution de repas tout faits, à la distribution de denrées, à la création d'épiceries sociales.
D'épiceries sociales, bien sûr. Ce que nous avons, nous, au CASIM, dans le cadre de notre travail.
Donc ça, on en soutient beaucoup. Bien puis c'est un plan d'action plus large. Vous parliez des écoles et vous avez raison. Nous avons, nous, une attention très particulière sur les repas délivrés dans nos cantines parce que nous savons que dans beaucoup de familles, c'est le seul repas équilibré et chaud qui est pris dans une journée. Donc c'est pour ça que cette année, nous avons fait le choix de geler le tarif des cantines. Ouais.
C'est une des mesures que vous avez prises. Vous avez pris une subvention de 160 000 euros aux principales associations d'aide alimentaire.
Subvention exceptionnelle. Elle allait en plus des autres.
Plus 230% d'augmentation des budgets liés aux distributions alimentaires, que ce soit des subventions, des chèques par le CCAS, distribution des repas par le SAMU social municipal. Et on le voit, on les voit dans les maraudes aussi, le nombre de repas qui sont distribués. Le gel des tarifs des cantines, ce que vous venez de dire. Et 15 000 repas gratuits pour les étudiants. Ça, c'est un vrai sujet, les étudiants.
C'est un vrai sujet parce qu'on a tendance à penser, vous savez que quand on est étudiant, c'est la bohème, quoi.
L'amour et d'eau fraîche.
On vit d'amour et d'eau fraîche.
Ça devient quand même plus compliqué.
C'était vrai quand j'étais peut-être étudiante, moi, même si c'était déjà un peu difficile. Et l'étudiante boursière que j'étais s'en souvient bien. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a des files de plusieurs centaines de mètres d'étudiants qui n'ont rien à manger. Rien, strictement rien.
En faisant le même constat donc, que vous, au Fonds Social avec le CASIM.
Donc effectivement, ça fait partie des publics auxquels on souhaite adresser évidemment une politique et répondre à un besoin. C'est pour ça que ma collègue, Aurélie Biancarelli, puisque c'est elle qui est en charge de la vie étudiante, a travaillé avec le CROUS
pour pouvoir
prendre en charge ces repas chauds à destination de nos étudiants. Et très bons, je tiens à le dire, puisque avons testés et ils sont très bons.
Oui, il n'y a pas de raison de leur donner une chose qui n'est pas bonne. Audrey Garino, voilà ce constat. Nous faisons le même, nous, dans nos associations communautaires. Nous faisons le même constat que vous. Nous travaillons d'arrache-pied, vous le savez, et notre travail de collecte qui est fait en ce moment pour la TEDACA, la solidarité, sert justement à redistribuer à ces associations. Et comme vous, nous constatons que les demandes sont énormes, vient se greffer aussi en ce moment pour nous, face à la guerre en Israël, des familles franco-israéliennes qui rentrent en France et qui, évidemment, ont assez peu de droits puisqu'elles sont parties depuis longtemps, mais que nous devons nous aider. On ne pouvait pas les laisser pour les écoles, etc. etc. Vous le savez, la sécurité, n'en parlons pas, qui est devenue une charge énorme pour notre communauté. Comment vous, Audrey Garino, vous travaillez au quotidien, que ce soit maintenant, comme ça l'a été depuis que vous avez pris ce poste, au quotidien avec les associations juives, et je pense que vous travaillez beaucoup avec le CASIM, évidemment. Racontez-nous, en fait, qu'est-ce que nous vous apportons? Parce que prenons une idée que nous faisons bien tous, évidemment, partie de la même de la même société civile, que ce soit les juifs ou les non-juifs, nous avons les mêmes problèmes. Donc, comment vous travaillez parallèlement avec nous?
Avec vous comme avec tout le monde, j'ai envie de dire. Et vous avez raison de poser le postulat comme ça. On participe tous de la même société. Voilà.
Exactement.
Et donc les problématiques qui sont vécues par les uns sont vécues par les autres. Et donc nous avons l'obligation, la responsabilité publique de les traiter. Donc effectivement, nous avons des échanges réguliers, mais comme j'en ai avec le Secours catholique,
sûr,
comme j'en ai avec l'Armée du Salut, on a des échanges réguliers justement pour identifier les besoins et voir comment est-ce que la ville peut les accompagner au mieux. Et puis nous avons aussi des opérations de solidarité en commun. Je me rappelle de la grande collecte du Fonds Social Juif Unifié au moment de la guerre en Ukraine, de la mobilisation lors de la nuit de la solidarité. Voilà, c'est un échange, c'est un va-et-vient, j'ai envie
Absolument.
De dire. Moi, j'ai besoin, évidemment, et la ville a besoin de comprendre les problématiques qui sont vécues par l'ensemble des communautés et l'ensemble des habitants dans notre ville. Et la réciproque est vraie, je pense que l'ensemble des communautés a besoin de savoir ce que fait la ville et comment est-ce qu'elles peuvent s'inscrire dans une politique inconditionnelle de solidarité.
Donc, pour vous, toutes ces associations, vous en avez cité d'autres, nous, bien sûr, on parle du CASIM, du Fonds Social Juif Unifié, puisque c'est le principal organisme qui s'est occupé de cela dans la communauté. En fait, nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous aussi.
Ça
parce
va dans
que
les
c'est
deux
ensemble
sens.
Que le travail peut se faire.
Ça va dans les deux sens. Vous avez parfaitement compris. Vous savez, notre ville a des chances quand même. Elle n'a pas que des défauts. Elle a aussi des chances et notamment, elle a la chance d'avoir un tissu associatif solidaire extrêmement large, extrêmement mobilisé et extrêmement riche de son engagement. C'est une chance. Mais je ne méconnais pas la situation et je sais que cette chance, elle existe aussi parce que ces associations ont très souvent pallié aux carences du service public. Et donc l'ambition qui est la mienne et qui est celle de la municipalité, c'est de remettre le service public à sa place sur les sujets
Même
de solidarité.
Si, comme je l'ai dit tout
Mais
à l'heure,
à sa place, ça ne veut pas dire faire à la place de...
Le politique ne peut pas tout faire.
Voilà.
C'est aussi notre devoir d'accompagner, de faire ça ensemble.
Exactement. C'est pour ça que je dis, le service public, il doit être à sa place et moi j'y tiens parce que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Voilà. C'est la base.
Absolument.
C'est celui qui doit aider de base. Mais on n'arrivera jamais à faire à la place de. Le but, c'est pas de faire à la place. Le but, c'est de faire ensemble. C'est pas de substituer une logique
ensemble,
à une autre.
Bien sûr.
C'est de travailler ensemble pour résoudre les problèmes sur notre territoire. Ils sont assez nombreux. On a tous notre place.
Je vais finir par une question un petit peu politique. Audrey Garineau, vous savez, le constat de la montée de l'antisémitisme depuis que Israël est en guerre suite à l'attaque terroriste du Hamas sur son territoire. La montée de l'antisémitisme est partout. Je sais que le maire de Marseille en a tout à fait confiance et vous, comme lui d'ailleurs, étiez présent pour la marche contre l'antisémitisme. Êtes-vous inquiète?
Oui.
Pour l'équilibre ici à Marseille de ces communautés qu'on dit toujours pourtant bien fonctionner ensemble.
Je suis inquiète globalement. Je suis inquiète globalement. La situation est très alarmante, très inquiétante.
Vous le sentez autour de vous? Vous le sentez? Est-ce que ça remonte jusqu'à vous, de vos services, des associations que vous rencontrez? Qu'est-ce qui remonte jusqu'à vous, Audrey Garineau?
Non, pour l'instant, dans mon travail du quotidien, non. Je mentirais si je disais je le ressens. Par contre, on est tous des citoyens, donc on ressent tous un certain nombre de choses. On ressent les tensions, on ressent les falsifications parfois. On ressent. Donc c'est pour ça que j'étais présente à la marche dimanche.
Vous ressentez les inquiétudes et la peur de la communauté juive.
Oui, bien sûr, bien sûr, on les ressent, parce que la situation est grave, parce que la situation est grave et qu'on sait très bien qu'à un moment ou un autre, elle peut avoir des répercussions. Et donc c'était pour ça que c'était important
elle
que
en
nous
a déjà.
Soyons, voilà,
elle
que,
en a.
Que nous soyons présents dimanche,
Absolument.
Parce que l'antisémitisme est un mal qui a gangréné notre pays depuis bien trop longtemps.
On a fermé les yeux.
Bien trop longtemps. Depuis des dizaines et des dizaines
Est-ce qu'on
d'années.
A fermé les yeux, Audrey Garineau?
Je
Est-ce
sais
que
pas,
vous c'est... pensez qu'on n'a pas été... Beaucoup de gens nous ont alertés, et ce, depuis les années 2000. Est-ce que vous pensez que c'était quoi? C'était de l'angélisme?
Je ne sais pas si on a fermé les yeux. Je ne serais pas capable de répondre à cette question. Et puis, ça voudrait dire d'avoir une réponse générale.
Non, puis vous n'étiez pas en politique.
Voilà,
vous êtes rentré tardivement en politique.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mal, quand on connaît l'histoire de notre pays... C'est un mal qui nous ronge depuis très longtemps. Pas depuis 5 ans, pas depuis 10 ans,
non,
pas depuis 20 ans.
Qui a toujours été là.
Qui a toujours
Mais
été
qui
là.
S'autorise
Donc
certaines
une...
fois et qui parfois joue à bas bruit.
Oui, parfois, et qui parfois aussi revient à la faveur d'une crise économique,
Bien
d'une
sûr.
Crise internationale.
Bah là, on a tout en même temps. Hein,
et donc, il faut être extrêmement vigilant, toujours.
Ouais.
Et peut-être que c'est là qu'on a pêché, je ne sais pas si vous dire on a fermé les yeux. Moi, je ne crois pas, mais que peut-être que parfois, on pêche par naïveté, ou parce que la situation est un peu meilleure et qu'on se dit qu'il y a d'autres problèmes. La question de l'antisémitisme, comme la question du racisme, sont des fléaux qu'il faut résolument combattre.
Moi, je suis toujours fascinée, ça sera le mot de la fin de cet antisémitisme, quand on sait ce que représentent en pourcentage les juifs dans la population française. française. Hein, bah, 1% de la population, hein, donc, ça, et ça ne fait que mieux. Et pourtant, c'est bien ça la définition de l'antisémitisme, malgré tout. Même dans des pays où il n'y a pas de juifs, il y a de l'antisémitisme. Merci beaucoup, Audrey Garrido, d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous le savez, la campagne de la Tzedaka, de la solidarité, continue et bat son plein. Et encore pendant 2 jours, si vous faites des dons, ils seront doublés. Donc, c'est important. Et merci pour le travail que vous réalisez.
Merci à vous.